Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
On sait que les policiers auraient été un suspect avec la mort, à la mort de Guylaine Potvin, étudiante à l'époque au cégep de Jonquière, qui avait été assassinée le 28 avril 2000. C'est donc vraiment une opération importante de la Sûreté du Québec. Ce matin, la sœur de Guylaine est avec nous, Mme Chantal Potvin. Mme Potvin, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, comment vous avez appris la nouvelle de l'arrestation du suspect? C'est la première chose qu'on veut savoir.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, mes parents ont été contactés par les enquêteurs lundi dernier. En fait, ils voulaient les rencontrer mercredi. Donc, ils ont pris un rendez-vous mercredi et puis ils se sont rendus à la maison. Et puis, on savait pas c'était quoi, pour quelle raison. On était souvent contactés là, dans les dernières années. En 22 ans, c'est sûr que ça change souvent. Ça a changé souvent l'équipe d'enquêteurs. Puis, souvent, il y avait des rencontres comme ça, juste pour faire connaissance, rencontres de courtoisie, tout ça. Et puis, c'est ça. Donc, un rendez-vous mercredi matin. Et puis, mon frère et moi, on était en vidéoconférence en même temps, tout ça. Et c'est là qu'ils nous ont avisés, informés du développement. Qu'un suspect était arrêté au même moment où ils nous l'ont annoncé, là, le suspect.
On arrêtait le suspect en question.
Oui, c'était vraiment live, là. Nous autres, on l'a appris vraiment en même temps que ça se passait.
Comment on réagit?
C'est vraiment une grosse surprise. C'est un choc parce que, oui, on espère toujours. Mais en même temps, on a tellement eu d'espoir au fil des années, mais à un moment donné, en tout cas pour ma part, j'avais pas vraiment plus d'attente là. Je me disais bon, si c'est pour arriver, ça va arriver, mais c'est pas plus que ça, tu sais. Mais c'est vraiment une surprise, un choc. Mais en même temps, si les gens vont nous dire ah, ça doit être un soulagement, vous êtes soulagé, mais tout ça, ça se fait pas comme par magie là. Même moi-même, je m'imaginais, bon, un jour, si ça se fait, bon, on va être libéré, on va être zen, ça va bien aller, tout ça, mais on passe par un.
Toutes sortes d'émotions.
Toutes sortes d'émotions, vraiment, puis on c'est comme si on vivait, on repassait par les mêmes étapes que quand on a annoncé la mort de Guylaine il y a 22 ans. Le choc, le déni, la tristesse, la colère, un peu tout ça.
Est-ce que quand on vous l'annonce, vous posez, vous, quelqu'un de votre famille, beaucoup de questions? Qui a fait ça? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous absorbez le choc ou vous voulez en savoir plus?
Ben, on absorbe le choc. Savoir plus, oui, mais il n'y a pas grand-chose présentement qu'on peut savoir là, par rapport à... On va l'apprendre en même temps que tout le monde, là, mais... c'est ça. Donc, y a pas,
OK. Ouais. Parlez-moi de votre soeur.
En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que dans les 2-3 prochaines années, avec toutes les procédures judiciaires, là, les étapes des procédures judiciaires qu'on va suivre, ben ça va être beaucoup là, le suspect qui va être mis sur la sellette. On va entendre parler beaucoup de lui, beaucoup du crime, et on va apprendre des détails et tout ça. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'oublie jamais là, la personne qui est en arrière, tu sais. Il y a vraiment une personne, puis faut pas oublier Guylaine, tu sais, c'est pas parce que c'est ma sœur, mais c'était vraiment une bonne personne.
Vous pourriez nous la décrire? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur elle?
En fait, c'était une personne qui était très humaine, un petit rayon de soleil. Et puis, elle avait 19 ans. Elle avait pris un petit peu comme beaucoup d'ados à la fin du secondaire. Elle n'était pas trop certaine de ce qu'elle voulait faire dans la vie. Donc, elle avait pris une pause d'un an avant de voir dans quel programme elle voulait étudier. Et puis, elle avait vraiment trouvé sa voie. Elle était à sa première année en éducation spécialisée. Et puis, donc, c'est ça, elle voulait vraiment consacrer sa vie aux personnes handicapées, aux personnes âgées. Puis d'ailleurs, le matin où elle a été trouvée morte, elle devait aller faire un atelier dans un CHSLD. Et puis, donc, elle se préparait aussi à faire un voyage humanitaire en Haïti, le même été qu'elle est décédée. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, un côté humain, là, était vraiment là. Et puis, aussi, elle était devenue marraine là, quelques mois auparavant là, du premier des petits-enfants de la famille. Donc, elle était vraiment, vraiment heureuse par rapport à ça.
Une famille tissée serrée,
oui.
Est-ce qu'on peut dire ça?
Oh, oui, vraiment tissée serrée. On se tient, la famille élargie, les familles de mon père, de ma mère, les amis, la communauté aussi, le village. C'est quand même un tout petit village. Et puis, mais même ça va plus loin que le village et toute la région. Là, ça avait créé vraiment une commotion à l'époque. Oui, c'est ça. On a beaucoup de soutien, beaucoup d'amour autour de nous, de gens qui nous écrivent, des gens qui ont été là depuis le début.
Puis votre relation avec votre sœur, comment vous pourriez la décrire? On sent là que c'est très serré, là, mais peut-être, je sais pas, un souvenir de cette relation-là.
Ben, en fait, c'était la dernière de la famille. Hein? Le bébé de la famille, c'est toujours... nous autres, c'était notre petite sœur. Hein? Je l'appelle encore ma petite sœur quand je parle d'elle. Donc oui, c'était le lien grande sœur. De voir comment elle chemine dans la vie. Là, on commençait à avoir des belles discussions. Et puis, c'était vraiment une belle bonne personne. Oui.
Commençait à savoir plus précisément ce qu'elle voulait faire dans la vie.
Oui.
Puis elle vivait avec des colocataires, je pense?
Oui, c'est ça. Elle avait deux colocataires à l'époque. Oui.
Si je reviens à cette époque-là, quand la nouvelle est arrivée, quand vous avez su, vous avez dit tantôt, on est passé par toutes les émotions, la peine, la colère, le déni. On n'arrive pas à le croire. Vous dire, on vient d'une famille tranquille, d'un village tranquille. On se dit, mais... qu'est-ce qui a pu se passer?
Ben c'est ça, c'est vraiment, on s'imagine pas que quelque chose comme ça peut arriver dans une famille, justement, comme vous dites, avec une vie très simple, des vies rangées, puis aucune histoire. Le déni était vraiment là au début. On disait, voyons, comment ça se peut? Ça se peut pas, là. C'est vraiment surréel, tout ça.
C'est
un gros choc.
Oui, j'imagine. Et pour vos parents? Comment ça a été?
Très difficile. Très difficile, mais je les trouve vraiment très, très forts. Je les admire beaucoup. Ils se sont tenus ensemble pendant toutes ces années-là. Et puis, encore aujourd'hui, ils sont là, encore dans les médias. Ils ont vieilli quand même, là. Ça leur donne, ça leur demande beaucoup d'énergie, tout ça. Donc, je les admire beaucoup parce que perdre un enfant, c'est une chose, mais perdre un enfant dans des circonstances comme ça, ça se dit pas, là, qu'est-ce que c'est. Mais c'est ça, ils sont forts, mais aussi, ils ont vraiment un bon soutien, sont bien entourés, ont parti, là, par exemple, les rencontres d'association des familles de personnes assassinées disparues. Il n'y avait pas ça il y a 22 ans, mais quand c'est arrivé, ça a été vraiment une bonne chose pour nous parce qu'on avait pratiquement, on était devant rien, là. C'était le néant, trouver des ressources pour nous aider.
C'est une question importante que vous soulevez parce que des gens qui sont des proches de victimes d'actes criminels, c'est pas souvent, là, je dis pas qu'on les oublie, là, mais les ressources sont pas faciles à trouver, comme si vous étiez pas directement touché par ce qui venait d'arriver. C'est pas votre conjoint, mais c'est votre sœur qui a été assassinée, puis vous avez besoin d'aide à ce moment-là pour continuer à fonctionner. Puis c'est difficile à trouver.
C'était difficile à l'époque, vraiment. Pour ma part, je cherchais, puis même... dans les grands centres. Il n'y avait rien qui existait à l'époque. Donc, c'était comme les soutiens psychologiques habituels, les groupes d'entraide pour personnes endeuillées, mais pas particulièrement pour ce genre de situation-là. Donc, C'était vraiment, c'est très difficile.
Quand le procès va s'amorcer, est-ce que vous, vous avez l'intention d'y assister?
Au moment où je vous parle, je vous dirais que oui. Parce que je me dis, là, avec le, les médias, les réseaux sociaux et tout ça, je vais en entendre parler. Puis la manière dont ça va sortir, ça sera peut-être pas nécessairement...
Vous voulez vous-même l'entendre, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Pour connaître, c'est ça.
Vous voulez tout savoir, les détails, parce que c'est ça un procès,
ouais.
Là, on va présenter la preuve.
Oui, puis... je le sais. C'est pour ça que je vous dis, au moment où on se parle, je me vois là, à être présente à chacune des étapes. Des détails, on en connaît déjà. Je sais pas là, jusqu'à quel point ça va aller là, au cours du procès, là, mais... Je vais voir comment...
Pour avoir déjà posé ce genre de questions-là à des proches, une des questions les plus importantes, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi ouais. C'est ma sœur? Pourquoi ouais. Elle a été choisie ou au hasard? Ou... Est-ce que c'est ça qui vous travaille l'esprit?
Ben, le pourquoi, c'est juste être au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est juste ça. Mais oui, on se demande pourquoi elle? Je sais pas, on le saura jamais pourquoi là. Je crois pas que c'est quelqu'un qui connaissait ma sœur.
Qui l'avait vue ou suivi.
Non,
ou...
donc ou qui lui en aurait voulu ou quoi que ce soit là. Je veux dire, elle avait une vie tellement tranquille, tellement rangée que c'est quelque chose qui ça se peut pas. Donc mauvais endroit, mauvais moment. Pourquoi c'est difficile à accepter.
Et l'idée de le voir dans la salle d'audience puis dans le box des accusés, parce qu'il va être là.
Oui, c'est sûr. J'ai déjà vu à la télé, j'ai déjà vu dans les médias sociaux, puis j'ai pas de mots, je veux dire, je peux pas commenter, il y a peut-être des trucs qui pourraient pas se dire à la radio,
ouais.
Là, mais je ne sais pas comment je vais réagir en le voyant en personne, mais c'est sûr que ça vient comme... Ça va être très bouleversant.
Je vous remercie beaucoup de, un, être venu ici ce matin, de nous avoir présenté, d'avoir parlé de votre sœur. Bon courage à vous et
merci.
À votre famille.
Merci beaucoup.
Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Montréal-Nord, c'est le titre du livre et c'est Mariana Mazza qui nous raconte une partie de sa vie, son enfance. Bonjour.
Allô, Paul.
C'est un livre qui cogne, c'est un livre qui arrive dans un moment où on a un débat pendant la période électorale sur l'immigration. Et ce qui est très frappant, ce que tu décris, là, c'est Montréal-Nord de ton époque, de ta jeunesse, de ton enfance avec ta mère. C'est un quartier avec des ouvriers. Ta mère, 4 emplois. C'est du monde qui travaille le jour, le soir, la nuit pour être capable de se faire une vie. C'était ça un peu ton milieu familial là, au départ.
Je ne connais pas une personne dans mon entourage qui avait pas 1000 jobs, que les enfants ne se faisaient pas garder par eux-mêmes. Moi, je ne me rappelle pas de pas avoir eu des voisins que les parents étaient pas là parce qu'ils devaient travailler. C'était pas des délinquants, c'était du monde qui voulait survivre. C'était de la survie où est-ce que j'habitais, puis il y avait une ghettoisation de ces gens-là. On était dans les mêmes blocs appartements, puis tout le monde se parlait en faisant « bon, moi je dois travailler, parfait, je sais qu'au deuxième, il y a des enfants qui sont tout seuls, fait qu'on va aller faire un petit check-up une fois de temps en temps ». Fait que moi, les propos du zinzin, là, il y a 2 semaines, là...
Monsieur Boulay,
une chance que je n'étais pas assise à côté de lui, parce que je pense que... Plus jamais de sa vie, il aurait repris la parole tellement que je l'aurais démoli. Ça m'a insulté. Ça a insulté tous les gens qui travaillent fort depuis longtemps. Il y a beaucoup de ces gens-là aussi qui peuvent pas travailler dès qu'ils arrivent au pays parce qu'ils doivent faire des équivalences. Ils doivent améliorer leur français pour la plupart. Ils doivent faire des preuves que c'est pas des criminels parce qu'il y a un régime de terreur et les gens ont peur d'eux. La seule chose qu'ils veulent, c'est un meilleur monde. Ils viennent pas ici se pogner le cul. Ils viennent ici travailler plus fort.
Mais ce qui est très frappant, c'est de voir la solidarité. Une famille, par exemple, qui débarque ici, Tito et sa gang, qui malheureusement va se faire expulser, puis vous l'apprenez à la dernière minute, puis il n'y a pas d'option. Là.
Aucune option.
Mais ces tranches de vie-là, c'est le lot de beaucoup de gens qui sont venus ici. On ne sait pas trop pourquoi ils sont venus. Des fois, c'est une erreur. Des fois, ils s'installent plus longtemps. Ils apprennent le français quand ils ne le parlent pas déjà. Puis un jour, leur statut est révoqué, ils repartent. C'était ça, ton coin à Montréal-Nord, proximité de gens qui vivent à peu près les mêmes choses.
Ben, c'est du monde qui vivent au jour le jour. La plupart des gens qui m'ont entouré, moi, j'ai pas grandi avec des Québécois. Je prends du recul aujourd'hui, je baigne dans un milieu très québécois, très blanc, et je suis québécoise, et je suis très fière de l'être. Mais oh my God, je regarde qu'est-ce que j'ai écrit, puis je me dis, mais j'étais seulement entourée d'immigrants qui cherchaient une façon de survivre. Et ça, au primaire, les familles, c'était ça. Dans mon entourage, dans les rues adjacentes, c'était que des quartiers d'Arabes où est-ce que j'habitais, puis d'Haïtiens. Et tout le monde travaillait tout le temps. Les maisons étaient vides, les enfants rentraient avec leurs clés, là, puis il y avait de la bouffe sur le comptoir. Fait que j'ai grandi avec justement Tito, tu viens de le mentionner. Tito, c'était une famille qui était arrivée ici. Leur permis a été expiré. Ils ont pas pu le renouveler à temps. Et ils ont été expulsés, se sont cachés pendant longtemps. Lui, il travaillait comme un cochon, matin et soir. La mère, elle tenait la maison. Et les 6 enfants faisaient l'école grâce à des livres trouvés dans la rue. Ils parlaient un français impeccable comme toi et moi. Et du jour au lendemain, on arrive pour arriver chez eux, puis il y a une note qui dit on a déménagé à tel endroit, on est expulsé du pays. Il n'y avait pas de façon de s'exprimer, de preuve, de dire hey, attendez, là, regardez, là, on gagne bien notre vie, là. On est là, là. C'est juste qu'ils ne pouvaient même pas aller à l'école parce qu'ils avaient peur de se faire pogner. Fait que, il y a ça que moi, j'ai vécu beaucoup d'abandon de ces gens-là qui n'ont pas eu le choix de s'en aller.
Faut qu'on parle de toi parce que c'est quand même une histoire très, très personnelle que tu racontes.
Ouais.
Parlait de ta mère, origine libanaise, parlait 4 langues?
Parle 5 langues.
5 langues.
Oui. Encore aujourd'hui, oui.
Encore aujourd'hui. Avec un paquet d'emplois pour vous faire vivre. Ton père, tu le décris simplement, c'était un alcoolique. C'était un gars qui était violent avec ma mère. Puis un jour, il a pris son passeport puis il a sacré son camp.
Il n'est jamais revenu.
Ça t'a fait quoi, ça, de voir que ton père levait les feuilles comme ça?
Je l'ai pas remarqué dès le début de mon enfance, mais en vieillissant, en voyant des couples autour de moi, en voyant des amis québécois, surtout québécois, que leurs parents étaient ensemble, je posais des questions. Ma mère a jamais voulu parler en mal de mon père. Elle a jamais parlé en mal de mon père parce que c'était un homme gentil avant 10h du matin. Après ça, il perdait les pédales, tu sais, il était pas fonctionnel. Mais c'était pas un violent qui frappait sur tout. Il l'a frappé une fois, comme je le dis dans le livre.
Ouais.
Une fois, ma mère l'a refrappé une fois. Il a commencé à crier les baguettes en l'air. Ma mère a fait, oh, attends, là, tu me frappes, je te frappe, là, c'est de même que ça marche. Quand il est parti parce qu'il voulait vivre son alcoolisme tranquille sans se faire chier avec nous. Il a jamais été présent après ça, seulement par téléphone. Mais quand je prends du recul, si je pouvais lui parler, je sais même pas ce que je lui demanderais. Je le connais pas. J'ai aucune idée de c'est qui ce monsieur-là. Fait que j'ai l'impression que moi, la notion d'avoir un père, c'est loin derrière moi. J'ai eu ma mère. Ma mère a joué les rôles parfaitement.
Mais en même temps, ta mère, elle pouvait être raide avec toi, là. C'était
très
pas...
raide. Ma mère, elle m'a éduqué très raide.
Tu racontes une scène, l'achat d'une robe, là, puis qu'elle parle avec la vendeuse, puis en voulant dire ma fille est un peu grosse, fait que on sait pas si elle va rentrer dans la robe. C'était pas bien ben gentil à dire, ça.
Non, mais je pense que ça a été les conséquences de son enfance à elle. Parce qu'elle, elle a grandi dans un Liban où est-ce que la femme enfantait. C'était des machines à enfants, tu sais. Comme dans The Handmaid's Tale, c'est un peu ça. Ils ont vécu ça pendant longtemps. Puis quand il y a eu le divorce avec son premier mari, qui était un mariage imposé d'ailleurs, elle était pas malheureuse, mais ils se sont séparés. Il est décédé, puis ils lui ont enlevé la garde de ses enfants. À un moment donné, elle, son modèle, c'est des femmes qui lui disent « Hey, toi, t'as pas de droit sur tes propres enfants. » Va-t'en d'ici. Fait que quand elle arrive ici, puis qu'elle a une fille, elle fait ce qu'elle peut avec les outils qu'elle a dans son coffre. Elle essaye d'être sévère avec moi, comme on a été sévère avec elle, mais elle se rend compte en bout de ligne que je suis un petit chaton, là, que moi je vais pleurer. Là-bas, elle n'avait pas le droit de pleurer. Moi, je braille, puis elle fait « Pourquoi tu pleures? » Je fais « Parce que t'es pas fine. »
Mais tu brailles beaucoup.
Je pleure, Paul. Oh, je pleure.
Écoute, je tournais page après page, puis là, je pleure, puis là...
Paul, il est fâché que je pleure.
Mais non, je suis pas fâché.
Non, non, mais c'est saisissant parce que j'ai cette image
mais
de fille.
Mais c'est parce que tu donnes, c'est exact.
J'ai pas cette image-là de fille.
C'est la fille, tu comprends, il y a rien qui va la faire pleurer puis être dure puis capable
comme
de
si
soutenir.
Toi, on savait si tu pleurais beaucoup. Imagine si on lisait ta biographie puis on lit que tu pleures
c'est
beaucoup.
Pour ça, je l'écris pas.
Ah, tu fais bien de pas l'écrire. C'est sûr, t'es émotif. Je pense qu'avec le temps, on se construit une barrière émotive pour que les gens aient peur de nous. Moi, je voulais que le monde ait peur. Je te raconte une histoire rapide par rapport avec le livre. Cette semaine, je suis au parc à chiens. Il y a deux gros chiens dans le petit parc à chiens. Moi, j'ai deux petits chiens. Fait qu'ils ont pas le droit d'être dans le petit parc à chiens. J'arrive puis je dis au gars, hey, excuse-moi, est-ce que ça serait possible d'amener ton chien de l'autre bord? Il s'approche à moi, nez à nez, presque à un centimètre pour me frapper. Puis il me dit, c'est ce que j'allais faire. Et le premier réflexe que j'ai eu, il est nez à nez à moi. Un centimètre. J'ai dit, c'est quoi ton esti de problème, toi? Moi, j'ai pas peur. J'ai grandi avec, hey, y'a même pas peur de manger une volée. Au pire, tu te battras. Alors, mais à l'intérieur de moi, je me faisais caca dans culotte, là. À l'intérieur de moi, le gars est au parc avec moi. S'il me frappe, c'est fini pour moi. Mais je me dis, il me frappera pas parce que je vais le démolir avec mes paroles. Il y a quelque chose de très rebelle. Il y a quelque chose de très insouciant que j'ai encore à l'intérieur de moi de, j'ai grandi dans ce genre de quartier où est-ce que si t'es vulnérable, comme dans une meute, on va te manger. Fait que je voulais pas être vulnérable.
Tu dis dans le livre que tu voulais pas être une fille.
Ouais.
Pourquoi?
Parce qu'on m'a fait jamais sentir que c'était une bonne chose. Parce que c'est plus compliqué, parce que faut que tu t'habilles en rose, faut pas que tu manges tes ongles, faut que tu perdes du poids, faut que tu parles bien, faut pas que tu parles plus fort, faut que tu te tiennes bien. Tandis que mon frère et toutes ses amis, ils avaient l'air d'une gang de clowns. Puis le monde trouvait ça drôle. On valorisait les déboires d'un homme, mais une fille, c'était comme pas drôle, puis j'ai jamais voulu être une fille. Et aujourd'hui, je suis une femme, puis je suis très fière de l'être, puis je pense que si j'avais été un homme, je pense que je serais en prison, sûrement. Là.
Quoi?
Ben parce que je me serais permis de faire des choses qu'on me laisse faire, tandis que d'être une fille, j'ai l'impression qu'il y a une certaine... Il y a une droiture qu'on a en tant que femme qui est très naturelle, et je pense que cette droiture-là m'amène dans beaucoup de choses positives.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles à un moment donné du Club Argentin, qui était un lieu de rassemblement. Là.
Avec beaucoup d'immigrants, d'ailleurs. Ouais.
Beaucoup d'immigrants, ça veillait tard, on buvait de l'alcool à partir de 10-11 heures. Là, c'était comme une transformation de la place, puis tout ça. Puis t'allais là, t'avais quel âge?
Oh, j'avais à peu près 7 ans, 6 ans. Ah ouais, puis jusqu'à 3 heures du matin, ma mère travaillait derrière le bar, puis elle faisait le service de nourriture justement avec la famille de Tito. C'était tous des immigrants réfugiés qui étaient là, puis qui faisaient vivre ce club argentin-là. Moi, dès l'âge de 7 ans, je me couchais à 3-4 heures du matin, j'étais dans le coin de la pièce avec des manteaux, avec tous les autres enfants. Puis quand ils avaient fini de danser puis de faire la fête, ils nous réveillaient, puis chacun à la maison. Il n'y en avait pas de chiolage, il n'y en avait pas de téléphone. Tu veux rentrer à la maison, va-t'en dans le coin. Sinon, tu reviens plus jamais. Puis on savait le plaisir que ça nous procurait. Fait qu'on fermait notre gueule, puis on allait dans le coin, puis on dormait dans un manteau.
As-tu eu une enfance, somme toute, le fun?
Mon Dieu, mais c'est ce que je décris dans le livre. J'ai eu une enfance incroyable. Vraiment, je l'ai... Demain, tu me dis, Mariana, tu peux revenir en arrière. Et je refais la même chose. Mais je pense que j'avais une tristesse pour tout ce que je découvre aujourd'hui à l'âge adulte. Le père... J'ai beaucoup d'empathie de familles immigrantes. On m'a arraché beaucoup de gens que j'aime. Beaucoup de gens sont partis de ma vie sans me prévenir. Je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie seule. Mais aujourd'hui, la personne qui me garde les deux pieds sur terre, c'est ma mère. C'est ma meilleure amie. C'est l'humain la plus incroyable que je connaisse. Si je pouvais écrire un livre uniquement sur sa vie, je le ferais. Et je pense que 90% des immigrants se reconnaîtraient dans son histoire. Fait que je le fais pas parce que je me dis que d'autres le feront. J'ai pas envie de la faire pleurer plus qu'elle a déjà pleuré en lisant le livre.
Deux choses. D'abord, t'as vécu à Montréal-Nord puis t'es allé à l'école Calixa-Lavallée.
Ouais.
Comme on dit, c'était un carrefour international avec des clans dans chaque coin de l'école. Là. Il y avait
T'avais les Noirs, les Arabes, t'avais les... C'est comme ça qu'on les appelait. T'avais les Noirs, les Latinos, les Arabes, t'avais les Blancs minimes. Attention, sois pas gay parce qu'on va te tabasser. C'était vraiment les années début d'année 2000, très dures, mais somme toute, les gardes de sécurité, c'était nos meilleurs amis. Tu les voulais de ton bord. La plupart des profs, c'était des profs québécois qui sont encore là, d'ailleurs, parce que c'est très attachant, des petits jeunes turbulents. Et... Des Farah Alibé, il y en a eu. Il y en a. Des Mariana Mazza, il y en a. Fait que, ouais, ça veut pas dire que c'est juste de la crap qui sort de là.
OK. Comment cette fille qui voulait pas être une fille, qui pleurait beaucoup, est arrivée à monter sur scène pour divertir les gens puis les faire rire?
C'est une bonne question, mais je pense que je le savais à l'intérieur. Puis ma mère me dit, puis me raconte encore que mon père était un musicien. À sa fête, il a reçu un poste de radio. Il chantait, il dansait, il faisait rire. Fait que le côté artistique, il y en a un dans ma génétique. Voir dans le club argentin du monde danser sans avoir peur de se faire juger, du monde crier, du monde rire, les regarder jouer des matchs de soccer de Diego Maradona, l'encourager à Diego Maradona qui frappe un ballon, je me suis dit, je veux qu'on m'acclame de même. Je pense que foncièrement, c'est rentré à l'intérieur de moi et je voulais qu'on m'acclame comme ça. Je voulais que les gens m'applaudissent et m'admirent et veuillent me voir. Et je pense que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui.
Carburant.
Ouais, c'est mon carburant.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci, Paul.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Nous recevons quelqu'un qui a une carrière en Europe, qui est revenu précipitamment de l'Ukraine, on se souvient, au début de la guerre.
Ça a un parcours assez, assez exceptionnel, là.
Eliezer Sherbatov est avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un livre qui s'intitule « Le garçon qui voulait jouer au hockey ». Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci de me recevoir. Je suis vraiment content d'être là.
Question toute bête comme ça, là, en lisant votre bouquin, là, le hockey, quand on dit c'est toute votre vie, ben c'était vraiment toute votre vie. Il n'y a pas d'autre chose dans la vie que le hockey. La famille, bien sûr, mais tout était orienté sur le hockey.
Oui, parce que le hockey m'a fait, a fait en sorte que je puisse avoir une vie normale, parce que c'est le seul temps où ce que j'appartiens à quelque chose, c'est j'appartiens à la glace. Puis je me sentais moi-même, puis je me sentais pas comme un handicapé, je me sentais moi-même.
Mais vous avez développé ça avant votre accident, la passion du hockey.
Oui.
Là. Oui.
Mais c'est pas moi qui l'ai développé, c'est mon père avec l'amour du hockey depuis les années 70 en l'Union soviétique. C'est ça. C'est comme
si on
ça,
fait le parcours un
comme,
peu.
Oui.
Vos parents, donc, vivent à Moscou. C'est le régime soviétique. Vos parents sont juifs. Et être juif en Union soviétique à cette époque-là, c'était ça équivalait à avoir des problèmes, des pressions, de l'intimidation. On a même fait chanter votre père pour extorquer de l'argent. Bref, c'est de la corruption partout. Ce qui, un jour, a amené vos parents à vouloir quitter l'Union soviétique. C'est ça qui est arrivé.
Oui, oui. Comme j'ai pu entendre de mes parents, ils ont eu des problèmes avec la mafia, l'Union soviétique, qui était très, très grand dans les années 80 puis 90. C'est pour ça qu'on a été en Israël, parce que mes parents, ils ont immigré en Israël. C'est là que je suis né, mais la guerre a commencé en Israël. Et mes parents, ils ont décidé d'immigrer au Canada. Puis c'est là que la belle histoire de Guy Lafleur, que c'est un peu dommage qu'on n'a pas pu serrer sa main, parce que sans le savoir, il a sauvé une famille complète, il a sauvé
des
vies.
Parce que votre père est un fan de Guy Lafleur.
Oui.
Quand il regardait les compétitions entre les Russes et le Canada, c'était Lafleur. Puis quand Lafleur comptait, il était quoi, le seul à applaudir?
Oui, oui, oui. Oui, mais parce que quand mon père parlait de Guy Lafleur, il parle de Guy Lafleur, tu vois, il y a les goosebumps sur lui, parce que il écoutait dans la radio les photos. Dans le temps, c'était pas HD. Alors, c'est ça, c'était son rêve à lui, puis c'est devenu le mien.
On va avancer dans le temps. Vous êtes à Montréal, vous jouez au hockey, et là, vous avez un accident qui a nécessité 3 opérations au genou, à une jambe, dont vous vous êtes jamais remis, finalement.
Non, non, malheureusement, j'ai eu une blessure banale. J'ai tombé en roller. Toutes les jeunes font du roller. Puis j'ai pas eu mal jusqu'à quelques jours par après. C'est une fuite dans mon articulation qui venait coincer mon nerf. Puis après 3 opérations au nerf, c'est devenu complètement endommagé. Suite à ça, j'ai plus de sensations en bas du genou et j'ai plus de muscles qui retient mon pied. Ça s'appelle un pied tombant, un pied mort. Je dois vraiment porter une prothèse pour pouvoir marcher comme du monde, sinon je boite.
Mais ça vous a pas empêché de continuer votre carrière après, ça?
Ben j'ai arrêté le hockey. J'ai pas joué mes deux premières années bantam, puis ma première année midget, je l'ai pas joué parce que je pouvais pas marcher, puis je pouvais pas patiner non plus.
OK,
pas.
Vous avez fait le saut directement de cet accident-là au midget 3?
Oui, oui.
Et il a fait le club.
Puis il a fait le club. Ben oui, c'est ça. Si vous n'avez pas joué votre première année midget, vous avez joué votre deuxième. Là. Puis...
Mais c'est une belle histoire dans le chapitre que je suis très fier. J'ai lâché l'hockey. C'était dans la maison, c'était très silencieux parce que je le savais que mes parents, ils ont tellement tout fait, ils ont tout sacrifié pour nous donner une vie à moi et mes frères. Puis là, maintenant, à cause d'un accident, je sentais que je les ai lâchés. Mais après avoir eu un meeting avec la famille, ma mère a dit, faut se donner une chance pour que je retourne sur la glace. Puis c'est là qu'on a commencé à essayer avec sa technique de patin parce que c'est la pionnière du power skating au Québec. C'est elle qui m'a aidé à me remettre sur les pieds avec beaucoup de niette. Puis c'est... je l'entends encore, genre je me réveille de cauchemar de niette avec moi. Mais c'est devenu inné parce que j'ai aucune sensation avec mon pied gauche. Je sais pas où que je mets le pied. Puis si je place mon pied de la mauvaise manière, si je le pique parce qu'il est un peu tombant à cause de mon patin, je tombe sur la glace. C'est pour ça que c'était très important de que ce soit inné. Puis avec l'entraînement physique que j'ai fait au gym, je me suis vraiment renforcé. C'est pour ça que j'ai un petit peu plus des gros jeux.
Mais vous disiez qu'il y a des mouvements jambes que vous pouvez pas faire sur la glace, par contre.
Non, j'ai jamais fait de virage brusque à droite, je suis pas capable. Faut que je freine. C'est incroyable. C'est un secret, faut pas le dire.
Mais vous avez joué quand même en Europe, vous avez fait le tour. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la carrière que vous souhaitiez, mais vous avez quand même pu jouer au hockey.
Oui, c'était pas ça. Au début, c'était juste patiner. Juste pouvoir patiner. Mais avec le midget 3, André Wilson m'a fait en sorte que j'embarque sur la glace une année avant, la première année midget, voir si je suis capable de patiner. Puis il m'a dit, reviens-moi l'année prochaine au camp d'entraînement. Puis c'est là que ça a été une année cruciale pour que je m'entraîne hors glace puis sur la glace. Puis suite à ça, midget 3, j'ai pu réaliser mon rêve et jouer dans la KHL.
Ça n'a pas toujours été évident, là, les villes que vous avez faites, les logements que vous avez occupés, les quartiers, la vie a été dure. On parle de joueurs de hockey professionnels, vous n'avez pas été payé parce qu'un club a perdu de l'argent. C'est quand même toute une histoire. Racontez-nous, quand vous avez quitté l'Ukraine, on s'était parlé à ce moment-là, en quelques mots, je pense que c'est votre mère ou votre père, parce que vous hésitiez à prendre le train, qui a dit, ben, s'il y a un train pour toi, prends-le.
Oui, c'était... Comme j'ai dit, c'était le train de la mort parce que on réfléchit, les trains se faisaient mitrailler. Mais je comprends maintenant, c'est le train de la liberté qui m'a fait en sorte que ça me sauve la vie. Le train, quand le train venait pas, il était en retard. J'ai appelé mon père, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Il me dit si le train il est là. S'il passe dans le train station, c'est parce qu'il faut que tu le prennes. C'est Dieu qui te parle. Même s'ils se font mitrailler, parce qu'il faut pas que tu restes sur place, parce que notre famille, on n'a jamais été une famille qui reste sur place. Quand il y a un problème, faut y aller en avant. On peut pas se staller, parce que c'est pas la mentalité que j'avais. Puis grâce à ça, j'ai pu prendre mon courage puis aller dans le train.
Là, vous jouez pour les Marquis de Jonquière, oui, actuellement, dans la Ligue nord-américaine. C'est quoi le prochain défi que vous voulez relever?
Le prochain défi...
Comptez les buts.
Ouais. Non, juste avoir une belle saison puis gagner un championnat.
Mais sinon, parce que vous donnez des cours aussi. On voit là, que vous enseignez aux plus jeunes également, là.
Oui, oui. Ben on a une famille qui est dans le domaine du service, que ce soit dans les centres Sherbatov Gym et notre académie Sherbatov d'hockey. Pour moi, j'ai décidé que je veux faire vraiment un développement total, que ce soit en patin, en conditionnement physique et en maniement de rondelles. Puis je veux bâtir la nouvelle génération de joueurs d'hockey, puis pas juste physiquement, mais aussi mentalement, parce que je sais c'est quoi passer à travers des obstacles. Puis le jeu mental est à peu près beaucoup, je vous dirais, beaucoup plus important que le physique.
Merci beaucoup d'être venu ce
matin. Merci beaucoup.
Eliezer Sherbatov, le titre du livre, Le garçon qui voulait jouer au hockey.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Shirley Théo.
Paul Arcand. Comment allez-vous, Monsieur Arcand?
Très bien, vous-même.
Ce grand homme.
Shirley,
oui,
la biographie Née pour chanter, et là, c'est toute ta vie. Là. Tu nous racontes cette vie-là, puis les gens vont découvrir plein de choses. C'est-à-dire que, tu as vécu les montagnes russes. C'est drôle, je parlais de ça avec Mariana Madza. Dis-moi, j'ai connu la pauvreté pas mal. Toi, tu as connu à la fois la période faste, le luxe. Ton père a fait de l'argent, il en dépensait beaucoup, mais il a fait de l'argent. Puis à un moment donné, bang! Ça s'est arrêté. Mais une enfance heureuse, somme toute.
Oui, une enfance dorée.
Grâce à ta mère.
Grâce à maman. Parce que maman a toujours été présente. Puis, comme papa réussissait à en faire, donc on a été gâtés. Tu sais, on avait la maison d'été toujours louée parce que mon père voulait pas acheter de maison du tout. Je ne me suis pourquoi. Et puis, on était gâtés, vraiment gâtés, vraiment. Puis, écoute, à l'Halloween, là, mon père, on passait, maman nous faisait des costumes parce que maman était couturière, chapelière. Elle nous faisait des costumes, là. Papa, il passait avec nous autres, quelques maisons, là, pas trop, parce qu'il aimait pas trop ça. Mais, il apportait des huîtres et aux morts, c'était comme, on a eu vraiment une jeunesse dorée avant que papa fasse faillite.
Puis après, ça a été dur.
Ouais, c'était l'enfer. Vraiment, là. Ça a été vraiment l'enfer parce que tout perdre et, tu sais, des hivers, pas de chauffage, pas d'électricité, mais c'est très formateur, je dois dire.
Comprends que ton père dépensait beaucoup, jouait.
Il a vécu
pas mal fort avec beaucoup de femmes autour de lui.
Mais comment? Oui, puis moi, ça, je l'ai appris parce que un jour, je me suis rapprochée de maman. Un jour, quand j'ai eu 40 ans, dans la quarantaine, j'ai demandé à ma mère si je pouvais l'appeler Fernande. Puis maman m'a dit oui, elle dit ben oui, c'est mon prénom après tout, tu sais. Et c'est là que je voulais me rapprocher, je voulais parler avec elle, savoir, connaître, c'était quoi leur vie, c'était quoi sa jeunesse, c'était quoi de la vie avec papa. Et sais-tu quoi, je trouve, mon livre, moi je l'ai fait pour Bruno Pierre, OK, mon gars, et pour le public aussi, et pour ma famille, parce que ma famille a pas connu ma carrière. Mon fils, Bruno Pierre, n'a pas connu ma carrière.
Il sait pas que tu as gagné tous ces concours-là.
Il sait pas.
Même en France, faut le...
Ben oui, à Bobineau, à Paris, je m'en allais là-bas, là. Je portais là-bas les disques Philips. Parce que M. Lherbier m'avait dit, ben Shirley, garde, viens faire l'étonnant, viens travailler au tonnant. C'est juste l'été, c'est 13 semaines. Fait que je suis allée à Bobineau, à Paris, là, j'ai gagné, mais eux autres, ils ont dit, oui, on va vous attendre. Pendant ce temps-là, les disques Philips là avaient trouvé des chansons pour moi. Puis écoute, c'est comme on était parti pour m'en aller à une carrière là-bas. Là.
Faut parler du Canal 10.
Ah, chat. Bossy.
La machine à fabriquer des vedettes.
Absolument.
Puis les tannants, ça a duré combien de temps? Tu l'as fait combien de temps? 5?
Moi, je l'ai fait 5 ans.
5 ans, c'est
mais
ça.
Mais ça a duré 10 ans.
Ça a été quoi? La...
Ça a été comme
une fusée.
Une fusée, et comme mon hymne national, c'est Bonhomme. L'étonnant pour moi dans ma carrière, ça a été ça. Et c'est M. Lherbier qui avait vu mon côté comique de comédienne et tout ça. Mais tu sais, au début, heureusement qu'on a eu Gilles Latulippe qui est venu avec nous. Puis après ça, Paul Lepage, tu l'as connu sûrement, le réalisateur. Mais écoute, ça a été pour moi la découverte de moi. Écoute, j'avais jamais fait ça de ma vie, là.
On est à l'époque, 5 ans plus tard, du fameux Me Too Moi aussi. Comment ça se passait dans ces années-là? Étais-tu traqué, harcelé? Devais-tu te défendre?
moi, j'ai été très chanceuse parce que j'avais un amoureux qui était réalisateur, qui était Jean Paquin. Mm-hmm. Alors, personne n'osait m'approcher, me toucher. Écoute, c'est la blonde du boss. Touche pas à ça, tu sais, style-là. Mais je sais qu'il y en a eu plusieurs. Un jour, moi, j'ai vécu un journaliste de la presse. Je vais taire son nom parce que il y a des enfants et des petits-enfants. Qui me demande pour une entrevue, puis on est à côté du studio A à Télémétropole. Et on termine l'entrevue, puis il s'approche de moi, puis il dit, il vient pour m'embrasser. Je fais, ben voyons donc. Fait qu'il dit, ben quoi, tu peux même me donner un petit bec après tout, je vais te faire un article. Hey, je te l'ai poussé. Hey non, mais là, je suis sortie vite, là, je criais, hey, 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 hey. Je te dis que c'est sauvé. Et sais-tu quoi, j'ai jamais eu d'article.
Puis il n'y a pas eu de petit bec.
Il n'y a pas eu de...
Pas d'article, pas de petit bec.
Écoute, ben, il était pas né, celui, par exemple, qui aurait voulu m'approcher.
Tu racontes, évidemment, l'histoire d'amour avec Pierre Marcotte.
Oui.
La relation, bon, le mariage,
oui.
Les affaires, les restaurants, Hélène de Champlain, la boucherie.
Oui.
Pierre, comme tu dis, aimait beaucoup l'argent, aimait beaucoup les femmes, puis le mariage s'est arrêté à un moment donné. Vous
oui.
êtes séparés.
Oui.
Ce que je comprends, ça a été difficile. C'était une bataille d'avocats, ça, pour qu'est-ce qui est à moi puis qu'est-ce qui est à toi?
Oui, c'était le divorce d'affaires a été long. Ça a duré un an. Oui, parce que les papiers, tu signes pas toujours des bons papiers. Et
t'as pas eu de pension alimentaire?
Non.
Penses-tu que tu t'es fait avoir?
Oui. Ben oui, je me suis fait avoir. J'étais pas vraiment une femme d'affaires. Quand Pierre a quitté, là, moi, j'ai gardé. Moi, là, mon bébé, c'était le restaurant La Boucherie. C'est moi qui l'avais trouvé. Et j'ai dit, OK, moi, je garde La Boucherie. Le reste, tu gardes tout ce que tu voudras. Et c'est là où je suis devenue avertie, aguerrie aussi. Là, je suis devenue une super femme d'affaires. Là, si avant, ben, tu sais, quand t'es en amour, ben, c'est pas grave. C'est ça, tu laisses aller. Aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui, là, faites-les les papiers. Quand vous vous impliquez dans un commerce avec votre amoureux, faites des papiers. Faites-les.
Tu racontes plusieurs étapes dans ta vie. Puis à un moment donné, ça a mal tourné. Puis là, tu dis, j'ai comme sombré beaucoup. Puis là, je prenais un peu trop de vin.
Oui.
Puis trop d'alcool. Puis là, je me regardais aller, là, puis je me suis retrouvé à l'hôpital. Puis là, je me suis dit, Shirley, prends-toi en main parce que c'est mal parti, là.
Mais tu sais, oui, ça, j'ai réalisé à un moment donné, ça n'avait pas de bon sens. Je buvais beaucoup trop de vin. Mais quand je suis allée à l'hôpital, Paul, c'est après mon procès qui a duré 6 ans. Ça, là, j'ai vécu l'enfer. J'ai failli mourir après, là. Parce que tout mon système...
Faut rappeler aux gens le contexte, un régime amaigrissant, tu faisais la publicité. Ouais. Ça a été blanchi, là, au terme de ça, mais c'était une procédure qui t'a coûté 100 000 de frais d'avocat.
Ça m'a coûté 125 000. Toutes mes économies y ont passé. Parce que je n'étais pas coupable. Mais il a fallu que j'aille constamment. Et là, ça a été remis. On revenait à la charge, on allait en appel. Ça a été comme du harcèlement. Je sais pas pourquoi. Quand c'est tellement acharné à détruire Shirley, tu sais. Puis pourtant, regarde, c'est une fille qui est clean, qui est correcte, tu sais, mais enfin, je suis passée au travers ça, puis, tu sais, au travers des même enfants, comme je te disais tantôt, c'est formateur. Mais cette fois-là, le procès, là, vraiment ne
s'est... C'était dur.
Ça a été vraiment, vraiment très dur.
Et tu chantes encore?
Et elle chante encore! Elle pousse encore la note! Et sais-tu quoi? Je n'arrêterai jamais. Moi, là, mon équilibre, ma stabilité émotive, là, c'est la musique et la chanson. Coupe-moi les cordes vocales, là, je suis finie. Alors oui, sais-tu quoi? Comme je serai centenaire, alors je vais pousser la note au moins jusqu'à 99.
Mais c'est vraiment un livre intéressant parce que c'est ta vie, mais ça nous rappelle les différentes étapes, les différentes époques dans l'histoire du Québec quand même. Shirley, merci beaucoup d'être venue ce matin, d'avoir franchi le pont de Saint-Lambert vers ici. Compliqué, hein?
Oh, Seigneur Dieu! Ayez pitié de nous, les pauvres Saint-Lambertois et Bertoises. Hey, je te remercie, Paul.
Ça fait plaisir.
Ça m'a fait plaisir de venir te voir pour un beau 15 minutes. Ça a été chouette.
Vous écoutez Balado du dimanche. Une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à L'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.